Tant qu'il y aura des femmes, avec Lydia Ketty. Votre rendez-vous du jeudi sur Aligre FM 93.1. Bonsoir. Bienvenue à l'émission Tant qu'il y aura des femmes sur Aligre FM 93.1. Je vous retrouve chaque premier et troisième jeudi du mois. Ce soir, nous recevons Madame Laurence Anselove et Madame Sandrine Alexandre. Mesdames, bonsoir.
Bonsoir, Lydia. Bonsoir, Lydia.
Bonsoir. Vous nous présentez votre livre « Ce que la philosophie doit aux femmes, l'histoire oubliée de la pensée des origines à nos jours », édité chez Robert Laffont. Madame Anselove, vous êtes professeure de philosophie, maître de conférences à Sciences Po, Paris, auteure de plusieurs essais philosophiques, moraux et politiques.
Oui, non, je ne suis plus professeure à Sciences Po. Ah, vous êtes... Je l'ai été et j'ai été aussi professeure en classe littéraire, mais c'est fini, je n'enseigne plus depuis 2 ans.
Ah, bah écoutez, mes informations ne sont pas exactes.
Mais c'est moi qui ne vous ai pas précisé.
Je vous en prie, c'est rien du tout. Et est-ce que vous dirigez toujours donc, la rédaction de plusieurs manuels scolaires?
Oui.
Philosophie de A à Z, c'est ça?
Oui, ça oui, je continue.
D'accord, super. Sandrine Alexandre, vous êtes normalienne, agrégée, spécialiste de philosophie ancienne et professeure de philosophie, j'espère que je ne me trompe pas.
Tout à fait, c'est tout à fait ça.
Et autrice.
Au lycée.
Et on a aussi Laurence De Villers qui a participé à l'écriture de cet ouvrage. Laurence De Villers donc, est normalienne aussi, agrégée, docteur habilité à diriger des recherches en philosophie. Elle enseigne à l'Université de Paris, j'espère toujours, à Sorbonne. Et elle est également directrice de collection aux presses universitaires de France. Madame, pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre pour répondre à la question « Ce que la philosophie doit aux femmes ?»
Eh bien, pour une raison un petit peu anecdotique, en fait, depuis des années, je réactualise chaque année un livre qui s'appelle « Philosophie de A à Z », qui est un livre scolaire, une sorte de petite encyclopédie. Et donc, dernièrement, l'inspection générale a décidé de mettre 5 femmes au programme de philosophie. Et alors que je savais
pourquoi 5 ?
Voilà, non, je n'avais pas tellement réalisé avant l'absence des femmes. Donc, au moment de la dernière réactualisation de notre livre Philosophie de A à Z, on a décidé de mettre non seulement ces 5-là, mais plusieurs autres femmes qui avaient donc été négligées, oubliées. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience du fait qu'il y avait eu beaucoup plus de femmes philosophes que je ne le savais, et donc j'ai commencé à concevoir l'idée en fait de faire un documentaire sur les femmes philosophes qui est toujours en préparation mais pas encore abouti et là-dessus je rencontrais Laurence De Villers, on en a parlé, on était toutes les deux, on enseignait dans le même établissement à ce moment-là, il y a 2 ans. Et donc, elle m'a dit, l'éditeur Robert Laffont m'a demandé d'écrire un livre sur les femmes. Alors, j'ai dit, faisons-le ensemble. Voilà l'histoire.
Super. Alors, quelle est l'origine du mot philosophie? Est-ce que ça a une origine?
Oui, bien sûr. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a inventé? Enfin, on l'attribue, je crois qu'on l'attribue à Platon. De Philein aimé et Sophia la sagesse.
Oui, c'est ça.
On peut en donner différentes interprétations de cette étymologie. Tout le monde ne l'interprète pas de la même manière. Pour moi, je dis toujours que c'est le désir et l'amour de la sagesse et de la vérité.
C'est un beau programme, c'est bien
oui,
aussi.
Oui, c'est un beau programme. Et après, on peut mettre plus l'accent sur la recherche de la vérité, plus l'accent sur l'amour. Dans le cas de Platon, il met l'accent sur le rôle de l'amour et l'importance de l'amour dans ce désir dans très particulier qui est le désir de la philosophie.
Ah oui, très bien. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'utilité de la philosophie pour l'humain ?
C'est une question, je vais me retrancher derrière celui qui a été mon maître, Jean Kelevitch. On lui a posé la question, à quoi ça sert la philosophie ? Et à une émission de télévision, et il a répondu, je ne peux pas vraiment répondre à cette question, puisque servir est un mot qui est un petit peu désagréable, parce que ça voudrait dire que la philosophie pourrait être utilisée pour quelque chose, servir à quelque chose, et ça évoque même le mot de servilité. Donc il répond tout d'abord catégoriquement, la philosophie ne sert à rien. Ah. Elle n'est pas faite pour servir et elle ne sert à rien.
Elle est utilisée en tout cas.
Même exploitée, puisqu'il y a des tas de gens qui écrivent des tas de livres de philosophie qui se vendent très très bien et qui ne sont pas, peut-être pas exactement de la philosophie au sens où je l'entends, où nous l'entendons, nous qui avons participé à ce livre. Mais aussitôt après, le philosophe Jankélévitch dit, même si elle ne sert à rien, c'est-à-dire qu'elle n'est pas faite pour servir ni pour être instrumentalisée, notamment pour servir à nous rendre plus heureux, néanmoins, elle sert en ce sens qu'elle a toutes sortes de retombées positives pour la société. Enfin, moi, je pense personnellement qu'une société où on respecte, où on accueille, où on respecte les philosophes, a toutes les chances d'être plus démocratique d'être
plus,
et d'être meilleure,
plus juste
ouais. qu'une société où il n'y a pas de philosophes, où on rejette, où on réprime les philosophes. Donc, elle sert, elle a des bénéfices indirects. Mais on ne peut pas répondre directement à votre question, à quoi sert la philosophie.
Oui, je comprends. Sandrine Alexandre, dans l'Antiquité, comment on définit un philosophe? Est-ce que c'est un sage?
Alors effectivement, le premier à se définir philosophe, et donc ensuite effectivement, Platon, via le personnage de Socrate, va parler de philosophia, mais c'est vrai que c'est Pythagore le premier qui se serait défini comme philosophe, et dans l'Antiquité, c'est qu'elle est une activité complètement différente de ce qu'on entend aujourd'hui par philosophie, donc votre question est très judicieuse, parce que ça permet vraiment d'emblée de se rendre compte de cette grande différence. Aujourd'hui, pour nous, qu'est-ce que c'est qu'un philosophe? Ça peut être différentes choses, hein, quelqu'un qui est invité dans les médias et qui parle à peu près sur tous les sujets.
Qui émet des idées.
Voilà, c'est ce que vous disiez exactement, Laurence, hein, c'est pas tellement pertinent. Un philosophe, c'est aussi aujourd'hui quelqu'un qui est professeur de philosophie, c'est-à-dire qui maîtrise un certain nombre de théories, de concepts, et qui va pouvoir les enseigner. Et c'est, dans l'Antiquité, c'est très différent. Dans l'Antiquité, c'est Pierre Hadot, le grand helléniste et philosophe, qui a insisté sur ce point. Le philosophe, c'est celui, ou la philosophe, justement, c'est celui ou celle qui va vivre en accord avec un certain nombre de principes, de préceptes, une vision du monde aussi. Et de façon peut-être encore plus large, ça fait référence à l'idée de Sophia, de sagesse. Et là, en ce sens extrêmement large, on peut avoir une musicienne, par exemple, Ptolémaïs. On peut avoir une gynécologue, Agnodike. On peut avoir quelqu'un qui est spécialiste d'astronomie, Aglaonike. Donc voilà, on a ce sens très très large, sagesse. Donc une compétence dans un domaine qui peut être aussi pratique et utile à la communauté, et un sens beaucoup plus strict, mais qui néanmoins implique toujours cette dimension pratique. C'est la participation à un genre de vie, à un style de vie philosophique selon une école.
Et vous avez fait partie du collectif qui a participé à la création de l'ouvrage, donc vous avez écrit un texte, et votre texte dans le livre, c'est ce que les femmes font à la philosophie dans l'Antiquité grecque et romaine, c'est-à-dire qu'il y a une affirmation. Donc aujourd'hui, il y a des preuves qu'il existait des femmes philosophes dans l'Antiquité grecque et romaine.
Oui, tout à fait. Donc, on a un certain nombre de témoignages. Certes, des témoignages qui vont être assez tardifs, compilés par quelqu'un qui s'appelle Diogène Laërce, donc au IIIe siècle, dans notre actuel calendrier. On a aussi des témoignages de textes, des quelques rares fragments qui demeurent avec un autre auteur qui s'appelle Stobée, au Ve siècle cette fois. Mais ces deux auteurs vont s'appuyer sur des témoignages qui les précèdent, parfois des sources même beaucoup plus anciennes. Et donc la présence de femmes philosophes est tout à fait attestée. Et certaines femmes, dans leur activité philosophique, ont été qualifiées de philosophes. Hein, donc le mot, dès l'Antiquité, est épicène. On dit « o philosophos » pour le masculin, et est philosophos, la philosophe. Voilà, donc c'est assez intéressant, je trouve, ce point-là. Mais pour revenir sur ce que ce que c'est qu'un philosophe ou une philosophe dans l'Antiquité, je pense qu'il faut réfléchir aussi aux conditions matérielles de possibilité de cette activité. Et ça implique de tenir compte du statut social, de la condition sociale, du fait de savoir si on est autochtone ou non, citoyen ou non. Et donc, ça implique aussi une certaine forme de loisir, hein, donc, que Socrate revendiquait. Hein. Donc, ça implique un certain nombre de choses. Donc, ça exclut d'emblée les pauvres et les esclaves.
Et les esclaves, qui
sont quand même la base hein, de la production matérielle dans l'Athènes classique. Et ça conduit finalement à faire ressortir un certain nombre de personnes. Donc c'est pas tout le monde qui peut être philosophe. Philosophe, c'est aussi une affaire de famille, hein, très souvent. La plupart des femmes philosophes dont on
parle, mariées avec...
Oui, voilà, donc soit la relation de mariage, soit la relation de filiation, mais c'est pas propre à la... aux femmes, hein, puisque chez les hommes aussi, ça se passe comme ça. Hein, le Spheusippe, c'est le neveu de Platon hein, qui hérite de l'école, par exemple.
À quelle époque trouve-t-on les premières femmes philosophes ? On est vers quelle époque ? Je sais que...
Alors, tout dépend de ce qu'on appelle philosophe, mais si on prend ce sens extrêmement large, c'est avant Homère. Oui. Donc 850 avant notre actuel calendrier, ce qui est incroyable. Et cette femme, c'est Phémonoé. Donc je parle vraiment conditionnel parce que effectivement ce sont des témoignages, il y a des recoupements de sources, etc. Mais dans cette antiquité, les choses ne sont pas figées, fixes et on a plusieurs versions. Et donc cette philosophe, ce serait Phémonoé, donc une prêtresse d'Apollon, Phémonoé, à qui l'on devrait le très fameux connais-toi toi-même, hein, qu'on trouve inscrit au fronton du temple de Delphes et qui va avoir une fortune énorme avec... Avec Socrate.
Et il y a aussi, alors, au 6e siècle, Théanoé, c'est
Théano, effectivement, qui est la compagne et la femme de Pythagore et qui va reprendre l'école à la mort de Pythagore, oui.
C'est quand même extraordinaire, ça. On a retrouvé certaines lettres aussi philosophiques de cette pythagoricienne où elle était en relation avec...
Oui, on a beaucoup de lettres, et notamment des pythagoriciennes. Et alors, la question, c'est est-ce qu'il y avait plus de femmes dans l'école pythagoricienne ou est-ce que l'accent a été mis, effectivement, sur le fait qu'il existait des femmes philosophes. Donc, on a une compilation de la part d'un auteur beaucoup plus tardif, qui s'appelle Jean Blic, qui a fait une enquête sur les femmes pythagoriciennes philosophes. Donc, ça met en lumière ce fait-là, et un recueil a été édité des lettres des pythagoriciennes et néo-pythagoriciennes, donc au 6e siècle avant et au 2e siècle après.
Vous disiez justement que les femmes philosophes mettaient en pratique les préceptes de l'école où elles étaient, et elles vivaient à un point, elles étaient souvent exemplaires, c'est-à-dire des modèles de femmes.
Oui, tout à fait. Notamment, alors on peut prendre les pythagoriciennes, hein, qui vont revendiquer un mode de vie... on va dire accordé, c'est-à-dire où le foyer, la maisonnée est une espèce de microcosme par rapport au macrocosme, et donc une vision finalement qui correspond complètement aux attentes sociales par rapport à ce que doit faire une femme. Et vous avez, dans une autre perspective, une philosophe cynique qui va justement mettre en question ces attentes par rapport à des codes et des cadres très très genrés et qui les déconstruit.
Certaines étaient aussi reconnues dans les domaines de la science et de la technique, comme vous parliez tout à l'heure d'artistes presque, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que penser, il y a aussi agir et être dans une action humaine.
Oui, tout à fait. Alors, humaine, le plus célèbre, c'est Agnodiqué, hein, une gynécologue qui a été conduite à se couper les cheveux, à mettre des vêtements d'homme pour pouvoir étudier auprès d'un médecin hérophile très célèbre à l'époque et pour pouvoir ensuite être médecin à Athènes. Et le fait de passer pour un homme lui permettait de pouvoir agir comme un médecin.
Alors, il y a aussi Hépatie.
Alors Hypatie, on la connaît peut-être plus parce qu'il y a eu pas mal de travaux grand public sur Hypatie, notamment...
Femme de lettres et de sciences, en fait.
Voilà, donc c'est surtout une astronome, une mathématicienne.
Mathématicienne.
Qui est malheureusement plus connue pour le fait qu'elle soit devenue un martyr. Hein,
oui, c'est ça.
Parce qu'elle a été... Enfin, un martyr, ça dépend comment on prend les choses, mais elle était justement...
Assassinée
et démembrée par les chrétiens. Donc oui, c'est un destin extrêmement tragique.
Mais j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que cette femme a reçu cette mort aussi violente.
Alors les explications seraient nombreuses. Peut-on expliquer ce genre d'acte? Non, ne s'explique pas. Mais le fait qu'une femme ose savoir, comme dirait Kant,
c'est ça. Elle ose.
Elle ose, et ça ne plaît pas. Mais je pense que l'explication est très réductrice ici, parce qu'il y a tout un contexte.
C'est encore la religion qui.
Il y a un contexte religieux, il y a un contexte politique, un contexte social. Donc l'explication est loin d'être simple. Et encore une fois, expliquer n'est pas justifié, bien sûr.
Ah absolument. Madame Hanselov, à toutes les époques, les femmes philosophes ont été invisibilisées, en réalité, quelque part.
Plus ou moins, oui, bien sûr. Plus ou moins, oui, de façon générale, puisqu'on découvre maintenant, on semble découvrir maintenant qu'il y a eu des femmes philosophes. Et quand j'entends Sandrine parler des femmes philosophes dans l'Antiquité, il semble qu'il y ait eu ensuite un effacement, une régression par la suite. Puisqu'à l'époque, on les intitulait vraiment des philosophes. Et puis après, plus rien, jusqu'au XVIIIe siècle, les intellectuels, les salons, aussi des activistes politiques, etc. Et Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges, Rosa Luxembourg, etc. Oui, il y en a quand même certaines
dont on va en parler.
Mais enfin, il semble y avoir eu un grand trou, en effet, entre celles de l'Antiquité et celles qui commencent à devenir notoires, dont on commence à parler à partir du 16e, 17e siècle. Oui.
Alors, Gilles Ménage, qui est le premier auteur qui répertorie les femmes philosophes, il en a répertorié 65 dans son histoire.
C'était surtout des femmes de l'Antiquité, en l'occurrence.
Pardonnez-moi ?
C'était surtout des femmes de l'Antiquité, en l'occurrence.
Oui.
Mais donc, oui, alors il y a eu un grand effacement. On parle d'invisibilisation et d'effacement, mais c'est sûr, puisque il n'y avait pas cette absence des femmes dans l'Antiquité. Donc, que s'est-il passé ?
Alors, son livre, L'histoire des femmes philosophes, a eu quand même un intérêt historique, parce qu'il a été redécouvert par le féministe américain au XXe siècle. Donc,
mais pour nous, c'est très bien qu'il existe, ce livre, mais il n'est pas d'une très grande utilité, il fait juste un portrait, il raconte juste la vie de chacune de ces philosophes sans développer leur position, leur philosophie, leur doctrine. Donc, il y a une ou deux pages sur chacune, mais c'est bien que ça existe.
Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il inclut quand même les femmes philosophes qui ont écrit des ouvrages et celles qui ont participé à la vie philosophique des écoles ou de l'époque.
Oui, absolument.
Donc la question, c'est est-ce qu'on est philosophe quand on a écrit ou est-ce qu'on n'est pas
Alors ça, c'était vraiment une question, mais maintenant, je ne sais pas, on y a répondu, je crois qu'on y a répondu. C'était qu'est-ce qui vous permet de décider que telle ou telle femme ont été des philosophes dans la mesure où elles n'ont pas d'œuvre. Alors on a plusieurs réponses à ça. Elles étaient reconnues comme des philosophes à leur époque. Ça n'est pas rien. Il y a eu des œuvres qui ont disparu, sans doute. Et il y a quand même des traces écrites, quelques traces écrites. Donc dans notre livre, dans l'introduction, je donne les raisons pour lesquelles et comment on a fait pour choisir certaines philosophes en ne se fiant pas uniquement à notre intuition, mais en se fondant sur les témoignages de l'époque,
bien sûr,
quand même.
Bien sûr. Donc, la musique, l'accompagnement musical, vous êtes toutes les deux responsables. Et donc, Madame Sandler, vous avez choisi Anne Sylvestre, qu'on va écouter. Donc, Anne Sylvestre qui va nous chanter Une sorcière comme les autres.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreilles d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore, à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue. Celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait. M'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante, forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin, vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi.
Vous êtes toujours sur Radio Graphère, l'émission en tant qu'il y aura des femmes. Nous recevons Madame Laurence Hansen-Love et Madame Sandrine Alexandre pour le livre « Ce que la philosophie doit aux femmes, il sort au milieu de la pensée des origines à nos jours ». Édité chez Robert Laffont. Madame Hansen-Love, une femme est reconnue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, philosophe, seulement si elle a écrit, non pas seulement, si elle a écrit des ouvrages, mais pas que, en fait, en réalité.
Oui, en l'occurrence, pour les femmes de l'Antiquité, on n'a pas toujours forcément une œuvre à exhiber pour dire, voyez, c'est une philosophe. Et on ne peut pas non plus dire qu'elle a été reconnue par tous les philosophes depuis l'origine de l'Antiquité, puisque précisément, les philosophes qui sont des hommes ont eu tendance un petit peu à mépriser les travaux des femmes. Bon, peut-être aussi qu'elles ont surtout mis l'accent sur l'action, sur la vie pratique, comme on le disait tout à l'heure. Elles n'ont assurément pas conçu de gigantesques systèmes prétendant expliquer le monde dans son ensemble. Si, je me trompe.
Non, mais je rebondis complètement sur ce que vous dites, mais le fait que Socrate n'ait rien écrit n'est pas
du tout une
objection au fait qu'il soit philosophe,
Socrate et Diogène.
Donc la vérité,
bien sûr. Oui, vous avez raison. Mais on a tendance aujourd'hui à demander quelle est l'œuvre, montrez-nous le livre. Voilà. Mais Socrate, bien entendu, oui.
Mais il est indéniable que l'activité philosophique s'est trouvée affectée par les femmes pratiquant la philosophie. Donc ça aussi, on le sait aujourd'hui.
Enfin, vous pensez à celle de l'Antiquité, parce que pour les modernes, c'est moins évident.
Oui.
Enfin, sauf au XXe siècle.
Oui.
Au XXe siècle, je pense qu'elles ont
une certaine
influence.
Elles ont retrouvé la place.
Oui.
En fait, votre livre démontre que les propos de ces femmes philosophes ne se contentent pas simplement de discuter sur la condition féminine. Elles parlent de tout. Elle parle
alors,
de la société.
Bien entendu. Alors ça, c'est le choix que nous avons fait. C'est nous n'avons pas fait un film sur les femmes féministes. Bon, c'est un livre. Pardon. Il y a tout un tas de littérature sur les écrits des féministes. Nous, on a voulu faire un livre sur les philosophes, les femmes philosophes qui ont été un petit peu négligées, mises de côté. Bon, effacées, il ne faut pas exagérer puisqu'on les a retrouvées quand même. Mais enfin, en tout cas, un petit peu négligées.
Comme on disait tout à l'heure, Madame Alexandre disait ça, c'est-à-dire que c'est quand même sont les femmes d'un certain rang social qui sont habituées au cercle philosophique. Donc ça, la question que je me pose toujours, c'est comment les idées passées de ces femmes d'un certain rang à des femmes de la population. Est-ce qu'il y avait... ça ne passait pas. Donc, on reste dans un domaine un petit peu élitiste, quand même, quelque part.
Oui, j'ai l'impression, sans m'avancer trop sur les autres époques dont je ne suis pas spécialiste, mais sur le fait que c'était quand même un certain milieu particulier, privilégié, qui pouvait manier ce genre d'idées, les autres n'ayant pas le loisir nécessaire pour s'y pencher.
Pour passer, oui.
Oui, exactement. Oui.
Il n'y avait pas de Facebook ou il y avait...
Non, mais on avait des réseaux de sociabilité, par exemple Aspasie, à l'époque de Socrate, dont elle a été une des inspiratrices. Aspasie tient salon. Les Gemina, l'impératrice Julia Domna favorisent finalement la sociabilité autour d'intellectuels, ce qu'on appellerait de façon un peu anachronique des intellectuels. Et Julia Domna protège Galien, par exemple, le médecin Galien. Donc on a vraiment ces réseaux de sociabilité, mais qui concernent une partie seulement de la population.
Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, ces femmes sont légitimes dans ces écoles, c'est-à-dire qu'elles sont accueillies par les hommes? Est-ce qu'elles sont, parce que certaines sont obligées de se s'habiller en garçon pour avoir des activités, mais en fait, elles sont quand même reçues dans ces cercles philosophiques. Elles tiennent l'école aussi, donc voilà, oui. Elles donnent des cours.
Oui, oui, tout à fait. Et le travestissement dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est sur Agnès Diquet, qui, elle, souhaitait rentrer dans un cercle de médecins. Tandis que les philosophes, on pourrait dire au sens strict, donc les écoles de philosophie, acceptaient les femmes, et la plupart depuis le début. Ça s'est fait un petit peu plus tard, mais en tout cas, toutes les écoles de philosophie, ce sur quoi insiste très bien Isabelle Coche aussi dans le livre, acceptaient les femmes. Donc certains vont malgré tout se travestir. Axiothea, par exemple, la Steinaia. Mais les femmes étaient acceptées dans ces écoles.
Pour répondre sur la question de, au fond, est-ce que c'est élitiste la philosophie? C'est une très bonne question. Virginia Woolf, dans son livre Trois Guinées, elle fait un plaidoyer pour l'éducation des filles. Et elle dit toujours, pour les filles des familles cultivées. Ça ne veut pas dire qu'elle trouve qu'il ne faut pas éduquer les filles, mais elle s'adresse aux filles des familles cultivées et elle leur dit soyez conscientes de demander, exiger d'être cultivées autant que vos frères. Bon, c'est vrai que pour devenir philosophe, mais comme pour devenir savante ou érudite dans n'importe quel domaine, il faut être né dans une famille. Enfin, c'est difficile, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est peut-être possible, mais enfin, c'est quand même très difficile d'accéder à toutes les bases qu'il faut pour devenir philosophe. Platon disait que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Bon, déjà, il faut être mathématicien, si l'on en croit Platon. Il faut avoir une solide culture scientifique, peut-être littéraire. Donc, plutôt les filles des familles cultivées. Pas aujourd'hui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on peut supposer que les filles peuvent avoir accès à une éducation à l'école.
Et puis les femmes ont envie de le faire, surtout, parce qu'peut-être qu'à l'époque, les femmes n'osaient pas.
Bien sûr, il y a l'envie, mais je vous dis, il y avait le manque de moyens. C'est pour ça que Virginia Woolf s'adresse aux filles des familles cultivées. Ça ne veut pas dire qu'elle exclut les autres, bien entendu.
Oui, mais j'espère bien.
mais la reproduction sociale demeure. La reproduction sociale contre laquelle l'école s'efforce de lutter, mais la reproduction sociale demeure, malheureusement.
Ça a été tellement puissant pendant des siècles et des siècles. Comment voulez-vous que les filles... deviennent philosophes dans ces conditions. Mais... Oui. Donc, celles qui le sont devenues ont un mérite absolument incroyable. Enfin, on peut souligner leur force de caractère, leur courage d'avoir vaincu tous les obstacles pour devenir quand même des femmes philosophes.
Oui, mais il n'y a pas de raison. Si les hommes le font, les femmes peuvent le faire aussi.
Oui, enfin, à condition d'avoir une enfance qui vous autorise à lire les livres de la bibliothèque des parents, etc. Ouais. À condition qu'il y ait une bibliothèque des parents, déjà.
Mais il y a aussi des bibliothèques où vous pouvez aller pour trouver des livres aussi.
Quand vous êtes une petite fille, je ne sais pas... dans le passé, c'était pas évident de demander la permission d'aller à la bibliothèque.
C'est pas évident, mais c'est pas impossible.
Peut-être pas impossible. La preuve, il y a des femmes philosophes.
Mais c'est bien la question des conditions matérielles de possibilité.
Les conditions de la pensée, de l'éducation,
de la recherche.
Et bien, les petites filles vont acheter ce livre. Et
peut-être pas tout de suite, c'est quand même assez.
C'est un tout petit peu
difficile d'accès. Il faut peut-être attendre la terminale.
Voilà, la terminale, très bien. compris que Socrate, par exemple, avait été initié par Diotime.
Oui, Diotime, qui est une prêtresse, une devineresse de Mantinée. Et cette Diotime, alors, on parlait de l'effacement des femmes tout à l'heure, l'une des manières d'effacer les femmes a consisté à dire que certaines n'existaient pas. Phémonoé, dont j'ai parlé tout à l'heure, on a mis en doute son existence. Diotime, on a mis en doute son existence. Voilà, donc, à la limite, qu'elle ait existé ou pas, moi je pense qu'elle a existé, mais c'est ma conviction, ouais. On s'en fiche, c'est ma conviction, mais peu importe. Mais le fait que Platon, donc dans le banquet, attribue à Diotime, une femme, le discours que Socrate va prononcer sur l'amour, ça n'est pas indifférent, d'autant plus que ce discours, qui en fait c'est un discours sur le savoir que Diotime propose, c'est une véritable réforme dans les institutions du savoir. Elle vient remplacer un modèle masculin associé à la pénétration, à l'éjaculation. Elle remplace ce modèle-là par un modèle associé à la gestation et à l'accouchement. Alors la question c'est bon, alors donc c'est très très genré, et donc la gestation c'est forcément féminin, donc on réduit les femmes au rôle de mère, etc. Mais c'est pas du tout ce qu'on peut faire dire à cette référence, puisque Diotime, en produisant elle-même une théorie, elle accouche sur le plan de l'esprit. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle libère la notion d'accouchement, le concept d'accouchement, elle le libère de son cantonnement au corps, et ce faisant, elle libère aussi les femmes d'un simple statut, simple, c'est pas simple du tout, d'un statut de mère. Et elle-même, par sa production conceptuelle, montre qu'elle est une vraie philosophe. La première, finalement, philosophe, quelque part.
Oui, mais c'est extraordinaire, parce que ce sont des questions, des réactions complètement d'aujourd'hui. C'est ça qui est formidable, quoi.
Oui, oui. Et la mère de Socrate, Phénarète, était sage-femme. Et Socrate, dans un autre ouvrage de Platon qui s'appelle Le Théétète, se réclame de l'activité de sa mère en disant « Je fais le même métier que ma mère, j'accouche les esprits. » Et sa mère, Phénarète, n'est pas un simple parallèle ou un simple modèle, puisqu'on pourrait dire que c'est le souvenir de cette femme, le souvenir de sa mère, qui le conduit lui-même à accoucher de son rôle, finalement, de philosophe accoucheur, et de se définir comme le philosophe accoucheur.
Donc c'est tout à fait extraordinaire, cette histoire, cette double source féminine de la philosophie. Alors Diotime, qui, d'après ce que j'ai lu, a vraiment existé, et à qui Platon fait tenir ce discours, et puis sa mère accoucheuse, et aussi cette idée la philosophie, le rôle du philosophe Socrate, c'est d'accoucher les esprits et non pas de transmettre un savoir. Alors ça, c'est absolument formidable, parce que ça vous dit toute la différence entre la philosophie et tout autre savoir traditionnel où un maître inculque et transmet un savoir. Enfin, il y a l'image de l'idée de on verse avec une carafe.
Non, c'est dans le banquet. Hein, c'est Agathon qui prend ce modèle-là en disant Socrate, viens donc t'asseoir près de moi, comme ça je vais devenir aussi savant que toi.
Oui, comme si ça marchait. Par sexualité même. Et, tandis que là, c'est vraiment le modèle féminin de l'accouchement, c'est-à-dire moi, Socrate, je ne sais rien, mais je vais vous aider à accoucher de la vérité. Ça, c'est une idée absolument extraordinaire qui change tout, et c'est féminin. Vous voyez ?
Oui. Le Moyen-Âge, maintenant. Est-ce que les femmes philosophes au Moyen-Âge sont des mystiques et souvent des religieuses ? Est-ce qu'on tourne autour des couvents
Écoutez, justement, ce que montre la chercheuse qui a fait le chapitre là-dessus, c'est qu'elles sont mystiques et philosophes. C'est-à-dire qu'on a évidemment tendance à penser mystique, donc irrationnel, donc en prise directe avec l'au-delà et avec la transcendance. Mais après tout, Diotime aussi était une prêtresse, et c'est pas pour ça qu'elle n'était pas philosophe. Et puis après, il y a des tas de théologiens qui sont philosophes tout en étant théologiens, je ne l'apprends à personne. Et donc, ces femmes mystiques ont eu une réflexion sur l'amour et sur la relation à l'autre, en fait, qui comporte une dimension philosophique, c'est indéniable, même si a priori, ça peut surprendre ou choquer, parce que dans l'idée de mysticisme, on pense tout de suite irrationalisme, mais si on se penche sur leurs textes, on voit que c'est des filles qui avaient vraiment une réflexion très approfondie sur le lien avec l'au-delà.
Mais justement, ce que vous dites dans votre livre, c'est que ces femmes allaient dans les couvents parce qu'en toute joie, je dirais, avec beaucoup de plaisir, parce que là, elles pouvaient expérimenter faire des expérimentations sur artistiques, intellectuelles,
etc. Quand elle le pouvait aussi, elle fuyait le mariage.
Sans mariage, exactement.
Voilà, elle choisissait le célibat, comme une autre, Gabrielle Suchon, qui a fait
l'écologie du célibat volontaire.
Mais elle se consacrait à une activité purement spéculative. Hein, on peut dire, pour rassembler ce qui est mysticisme et philosophie, le lien, c'est la spéculation et la réflexion sur l'amour. Voilà, en tout cas, ça n'exclut pas. Ce n'est pas parce que vous êtes mystique que vous n'êtes pas philosophe.
Oui, absolument, absolument. Oui, au contraire. Hildegarde de Bingen, alors. Elle est connue quand même, cette...
On connaît son nom, oui.
Oui.
Mais elle est une de ces femmes philosophes et mystiques.
Absolument. Mmh. Alors, elle développe donc de nombreux talents. Effectivement, elle est abbesse, elle est illustratrice, compositrice. Elle a composé 70 chants liturgiques.
Oui.
Bon. C'est extraordinaire. Elle est naturaliste aussi. C'est la première naturaliste.
Oui, des femmes qui avaient de multiples talents, connaissances, érudition. On dirait aujourd'hui peut-être des intellectuels ou des penseuses, mais philosophes, oui, vraiment, il faut leur accorder ce titre.
Alors, Héloïse, épouse d'Abélard.
Alors, aussi. Celle-là, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce que elle veut l'amour, mais pas... Alors là, pour le coup, pas un amour platonique, elle veut un amour vraiment sensuel. Avec Abelard.
Oui, oui. En plus, elle définit la spécialité du désir féminin.
Ah oui, elle a vraiment une personnalité d'une force absolument incroyable, admirable.
Vous parliez tout à l'heure de Marie de Gournay, aussi, qui est membre active de la République des Lettres. Elle conceptualise la condition humaine et condamne les inégalités et la servitude imposée.
Absolument, et elle met beaucoup...
On commence à trouver des femmes qui imposent maintenant, qui désirent et qui veulent.
Oui, alors, c'est un combat contre la servitude, et elle met beaucoup l'accent aussi sur la nécessité de l'éducation des jeunes filles, et elle réclame l'égalité. C'est incroyablement moderne, Marie de Gournay et Gabrielle Suchon, oui.
Et elle dit effectivement qu'il n'y a pas de distinction entre les sexes, il n'y a aucune justification légitime entre l'homme et la femme. Quoi.
Alors, c'est ce qu'elle dit, et elle dit parce qu'à cette époque-là, vraiment, le combat, c'était d'obtenir le même traitement des filles, et notamment dans l'éducation. Personnellement, je ne dirais plus tout à fait la même chose aujourd'hui. Mais je comprends vraiment qu'à l'époque, l'urgence, vraiment, c'était de dire que les filles ont le droit à une vraie éducation et pas seulement à apprendre la tapisserie et le piano. Dans le meilleur des cas.
Même si elles peuvent aussi apprendre, ça peut aussi servir de se faire la tapisserie et le piano. On peut aussi. Mais pas que.
Oui, mais pas que. Voilà. On voit ça chez Jane Austen aussi, beaucoup de filles qui refusent d'être cantonnées à la musique et à la tapisserie. Oui.
Pardon. Marie de Gournay était la première femme, l'une des rares femmes, à vivre de sa plume.
Oui, ça aussi, c'est toujours pareil, les conditions matérielles. Comment voulez-vous faire quand vous êtes une femme pour vous consacrer à une activité intellectuelle si vous êtes dépendante des hommes, vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on trouve des femmes mystiques au couvent.
Oui, oui. Et donc elle a édité en 1622 l'égalité des hommes et des femmes, et en 1626 la femme et grief des dames. Elle a dit une chose, elle demandait pourquoi est-ce que les hommes naissent libres alors que les femmes sont privées de la liberté. C'est quand même une question intéressante.
Oui, les hommes naissent libres c'est la formule exacte de Rousseau, et nous sommes nés libres et partout nous sommes dans les fers. Mais c'est la fameuse formule de Rousseau qu'elle anticipe donc. Pourquoi les hommes et les femmes sont nés libres et pourquoi les femmes sont maintenant sous la domination des hommes? Alors c'est une question que l'on se pose toujours aujourd'hui.
Tout à fait.
Et les réponses sont diverses, parce qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir si les femmes ont toujours été dominées par les hommes, ou bien si ça vient d'une certaine période, le début du néolithique avec l'agriculture, la propriété privée, etc., etc. Et d'après ce que je lis aujourd'hui, on apprend depuis qu'il y a des préhistoriennes femmes que peut-être avant le néolithique, pendant une très très longue période des chasseurs-cueilleurs, peut-être que les femmes avaient des activités beaucoup moins genrées. Enfin, c'est-à-dire que les femmes n'étaient pas dans les grottes en train de faire la cuisine, puisque les chasseur-cueilleur était nomade, il se déplaçait énormément, et les femmes se déplaçaient avec les hommes. Donc probablement participent plus ou moins à la chasse, en tout cas avaient un rôle déterminant dans l'alimentation, et probablement... mais c'est très difficile d'avoir des certitudes sur ces périodes. Probablement, elles étaient beaucoup moins dominées. Il n'y avait pas ce partage des tâches qui est apparu avec l'agriculture.
Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle d'une femme du passé, on se rend compte qu'à son époque, elle était connue et respectée. Et c'est aujourd'hui qu'on a oublié...
Celle qu'on cite là-dedans.
C'est ça.
Oui, plus ou moins. Marie de Gournay avait ses liens avec Montaigne. Donc,
bien sûr. Alors, un peu de musique, à nouveau. Alors, You Are My Sister, c'est vous, Sandrine, qui avez décidé de nous faire écouter ça?
Oui, c'est une chanson de Anony. Enfin, le groupe, c'est Anony and the Johnsons. Avant, c'était Anthony and the Johnsons. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est pas un argument, mais qui traite de la question de la sororité qu'on doit à l'intellectuel et philosophe, de mon point de vue, Belloux.
Eh bien, très bien. You Are My Sister, on écoute.
écoutez Allegre FM 93.1.
C'était You Are My Sister par Anony. Donc, vous voulez, Sandrine Alexandre, ajouter quelque chose ?
Oui, il semblait important que cette chanson donc, de Anony, qui est une femme trans, prenne place dans une émission sur les femmes et sur les femmes philosophes, dans la mesure où un féminisme radical, pour moi, c'est aussi un transféminisme. Et dans la mesure où, bah, tout à l'heure, on parlait du rôle de la philosophie, de son utilité, entre guillemets, et elle est, je pense, là aussi pour déconstruire un certain nombre de stéréotypes, de binarismes, et pour changer le monde, sinon ça sert pour moi à rien de faire la philo.
Donc vous êtes toujours sur Allegre FM, tant qu'il y aura des femmes. Nous recevons Madame Laurence Anzenlove et Sandrine Alexandre, que vous venez d'entendre. Pour le livre « Ce que la philosophie doit aux femmes, histoire oubliée de la pensée des origines à nos jours », qui est édité chez Robert Laffont. Philosophie, en général, vous répondez qui vous voulez, reste pour l'essentiel l'apanage des hommes. Le défi des femmes est d'être audible et crédible. C'est un des besoins que les femmes ont, être crédible.
Sur la crédibilité, peut-être, c'est une question qu'on trouve dès l'Antiquité. Dans la mesure où la plupart des femmes qui ont prétendu à la philosophie, qui ont correspondu avec des philosophes, qui ont écrit de la philosophie, ont à un moment ou à un autre, en leur temps ou dans la postérité, je parle des philosophes antiques, été considérées comme des étaillères, des courtisanes ou des prostituées, non pas d'un point de vue constatif, parce que ce serait tout à fait légitime, mais d'un point de vue péjoratif et discriminant, dans la mesure où, et c'est là, rejoint votre question sur la crédibilité, en les associant à une catégorie qui était déconsidérée, enfin en tout cas moins considérée, et qui permettait finalement de déconsidérer leurs paroles. À la limite qu'elles écrivent bien, pourquoi pas, mais qu'elles osent penser, qu'elles pensent comme des hommes, ça n'était pas possible. Et c'est ce qui est arrivé à une épicurienne, Léontion, qui, ayant écrit un pamphlet contre Théophraste, se voit vertement réprimandée, et par des gens très connus, Cicéron par exemple, qui considère que elle écrit bien, mais c'est absolument scandaleux qu'elle se soit élevée contre un grand philosophe comme Théophraste.
Il y a beaucoup de femmes, donc je veux juste, avant de parler un petit peu, Madame Anzenlove, de ce que vous avez écrit, c'est-à-dire ce que font les femmes à la pensée, qu'on parle de Gabrielle Sujon, parce que je trouve que son idée est fort agréable, de ce célibat volontaire, je trouve ça très bien.
Alors, elle dit qu'elle ne veut pas d'engagement, et on a titré le chapitre « La vie sans engagement ». Et donc, ça peut surprendre et heurter, puisque nous sommes toutes là des femmes engagées, et nous trouvons que l'engagement, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais pour elle, engagement, ça voulait dire sous tutelle, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'elle a fui le couvent où on l'avait enfermée.
Le mariage aussi.
Et bien sûr, le mariage, et tenté et réussi à vivre de sa plume. Mais ce qu'on remarque quand on la lit, c'est à quel point elle est moderne, c'est incroyable dans ses arguments. Alors d'une part, elle dit qu'elle a choisi la philosophie parce que la philosophie, c'est ce qui nous permet de résister aux préjugés, et donc ça, c'est toujours ce que nous enseignons encore aux élèves, essayer de penser par soi-même, donc résister à l'air du temps. Donc elle dit ça déjà, et elle dit ça aussi que l'injustice, ce qui est tout à fait inadmissible, c'est de transformer la coutume en nature. Et elle dit, c'est une espèce d'injustice de rejeter sur la nature ce qui n'appartient qu'à la coutume, parce qu'étant une fois établie, on croit toujours qu'elle est bien établie. Alors une formule parfaitement actuelle.
Moi, j'aime bien aussi ce qu'elle dit. Elle dit aussi une vie sans engagement, parce que c'est de la liberté que naît l'égalité. Ça aussi. C'est-à-dire que si on n'est pas libre, on ne peut pas demander d'égalité. Et ça aussi, c'est bien.
Donc la revendication, c'est d'être libre, et donc pas sous tutelle. Donc nous sommes libres, et pourquoi est-ce que nous sommes dans les fers ?
Et elle dit aussi que... apporte à la philosophie l'idée que sans accès au savoir et à la liberté, les femmes n'existent qu'à demi. Il y a encore une chose que j'ai bien aimé, cette dame. Elle dit aussi... l'idée du célibat volontaire, c'est utopique, mais c'est vrai que c'est une idée très moderne. Et elle dit, on ne devient pas... Alors, elle remontait que penser autrement, il faut vivre autrement pour penser autrement. Et en fait, on n'est pas sujet, on le devient. Je trouve ça aussi...
Alors tout ça, c'est des choses qui ont été dites et développées après.
Après, oui.
Par exemple, Jeanne Hersch dit que la philosophie, pour elle, c'est l'action et qu'il faut être libre tout de suite et sans attendre d'avoir démontré l'intelligence égale des femmes et des hommes. Il faut agir. La philosophie, c'est une action, c'est de l'action. Et donc, et quelle est l'autre phrase que vous citiez d'elle de Gabriel Suchon.
Oui, pardon.
À l'instant, vous citiez.
Devenir sujet.
Et devenir sujet.
Devenir sujet, c'est extraordinaire.
Non, là, on est en plein dedans.
Elle dit, on n'est pas sujet, on le devient.
Oui,
c'est-à-dire qu'il faut
absolument.
Le devenir. Travailler pour le devenir.
Oui, absolument. Devenir sujet, donc ça, c'est vraiment une constante de ce qu'on raconte dans notre livre. Et je voulais dire aussi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, Laurence de Villers, qui n'est pas là, dit toujours qu'on n'a pas tant effacé les femmes ou oublié les femmes, ou négliger les femmes. En fait, l'expression juste, c'est qu'on les a délégitimées. Mmh. C'est-à-dire, les femmes, on voulait bien qu'elles parlent, on voulait bien qu'elles écrivent des livres. Simone de Beauvoir, on admirait son talent littéraire, mais en tant que philosophe, alors ça, non, quand même pas. Quand même pas.
C'est voilà. Quand même une femme. Donc.
C'est quand même une femme, voilà. Donc, légitimer est l'expression juste pour dire l'attitude des hommes vis-à-vis des œuvres des femmes philosophes.
Madame Hotzander, vous avez écrit le chapitre « Ce que font les femmes à la pensée ».
Oui.
Donc, dites-nous un petit peu. Et vous présentez quatre femmes, quatre personnalités, quatre figures majeures de la pensée du XXe siècle.
Déjà, je ne vais pas vous répondre en général, parce qu'il n'y a pas de généralité en philosophie, c'est-à-dire le propre de la philosophie, c'est que chaque philosophie est singulière. Et donc, on ne peut pas dire que ces quatre femmes-là ont le même apport et la même contribution à la pensée. Mais chacune apporte quelque chose à sa manière, en montrant qu'une femme peut avoir une pensée aussi profonde et aussi vaste qu'un homme. Voilà, ce qu'elles font à la pensée, c'est qu'elles montrent que personne n'a l'apanage de la pensée, déjà, pour commencer.
Ça appartient à tous.
Mais après, je ne peux pas vous donner vraiment... je ne peux pas vous dire, voilà quelle est la part féminine... quelle est la part féminine de la philosophie ? Ça, ce serait un petit peu... ce serait discutable, peut-être.
En tout cas, il faut attendre 1924 pour que les femmes aient officiellement accès à l'enseignement de la philosophie en France.
C'est incroyable, cette histoire. C'est...
Vous n'en revenez pas toujours, hein ?
Oui, non, toujours pas.
Vous avez du mal, oui. Après tout ce qu'on vient de dire, en plus, depuis des siècles...
Oui, quand on regardait le programme, mais encore actuellement, il y a, je crois, 50 hommes et 5 femmes.
Ben oui. Est-ce que vous pensez que le mouvement MeToo peut être considéré comme l'héritier des luttes des femmes des siècles précédents ?
D'une certaine manière, bien entendu, mais en même temps, c'est une nouvelle page qui est tournée. Alors là... la révolte des femmes contre la violence qui leur est faite, ce n'est que très indirectement le résultat de temps de réflexion des femmes dans l'ordre de la philosophie. Quand même, MeToo, ce sont des femmes qui un jour ont pris la parole grâce aux moyens que nous avons aujourd'hui de nous exprimer. Donc on ne peut pas... Oui, ça a un lien très indirect.
Mais les philosophes féministes, aujourd'hui, réclament la justice sociale contre les violences sexuelles, par exemple. Il y a aussi une façon...
Bien entendu, mais là, ce n'est pas le propre des femmes philosophes. Là,
non, ce n'est pas le propre des femmes
point,
philosophes.
Sur ce point, nous rejoignons le combat féministe en général. C'est normal, mais ce n'est pas parce que nous sommes des femmes, c'est parce que nous sommes des êtres humains. Là, en
absolument.
L'occurrence, le combat pour la justice, le combat pour la liberté, vous voyez bien que ce n'est pas l'apanage des femmes.
Non, bien sûr que non. Est-ce que la conscience totale de soi... Pardon, et du monde, je suis navrée, est une connaissance que chacun devrait s'efforcer de rechercher.
Alors,
connaître soi-même.
C'est ce que nous enseignons à nos élèves au début de l'année. Moi, je lisais toujours un texte de Kant qui dit on ne peut pas apprendre la philosophie, on ne peut apprendre qu'à philosopher. Donc, c'est toujours le principe de l'accouchement. On va essayer de vous inciter, de vous donner le goût, de vous donner la curiosité. Tiens, ce Gabriel Suchon, elle valorise la curiosité. Il y a deux qualités qui qualifient la philosophie, l'étonnement et la curiosité. Eh bien, nous essayons de susciter l'étonnement et la curiosité en tant que professeur de philosophie. C'est ce que nous faisons. et en expliquant toujours tout au long de l'année que, bien sûr, c'est utile et intéressant de lire les philosophes, mais qu'on ne trouvera pas dans les lectures des réponses aux questions qu'on se pose, et que le but de la philosophie, ce n'est pas de vous remplir le cerveau de la pensée d'autres philosophes, mais c'est bien de vous donner le goût et l'amour de la recherche de la vérité et de la sagesse.
Est-ce que la philosophie aujourd'hui développe des nouvelles méthodes ou est-ce qu'effectivement il y a une différence entre la philosophie...
Écoutez, vous êtes prof actuellement, donc dites-nous si on enseigne différemment la philosophie aujourd'hui que dans ce que j'ai commencé.
Je ne sais pas, parce que du coup, je ne sais pas comment ça se faisait avant.
On va dire depuis l'Antiquité, par exemple.
Par rapport à votre question sur est-ce qu'on pense autrement la philosophie, peut-être que la question qui se rattacherait complètement à la question du livre, et je crois que c'est Marie Chartrand qui en parle, mais c'est sur la question des savoirs situés. Le fait d'avoir des... L'expression est de Donna Haraway. L'idée que... le savoir n'est jamais neutre et que la prétendue objectivité, que ce soit dans n'importe quelle science, humaine ou pas, la revendication d'une objectivité fondée sur la neutralité et l'abstraction, généralement, promeut un regard qui est un regard masculin, blanc, hétérosexuel, cisgenre, etc. Et donc le point de vue féministe, l'épistémologie du point de vue sont des notions qu'on doit à Nancy Haverstock ou à Sandra Harding, consiste justement à repenser la notion d'objectivité, non pas sur le principe de la neutralité, mais sur le principe de la saturation des points de vue en convoquant les points de vue des personnes qui ont été marginalisées dans un système qui est objectivement un capitaliste et patriarcal.
C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que vous étiez attentive à la parole trans.
Oui, exactement. C'est une manière de repenser la notion d'objectivité, parce que Haraway, par exemple, tient à l'objectivité. Elle n'est pas en train de dire que toutes les opinions se valent. Elle n'est pas du tout relativiste. Mais l'idée consiste à repenser l'objectivité comme un discours qui va se construire progressivement et se construire avec le concours des points de vue qui ont été effacés, les femmes, effacés, minorisés, marginalisés.
Alors, à la question, je suppose qu'il y a plusieurs réponses, mais à la question, est-ce que la philosophie, ce que la philosophie doit aux femmes, qu'est-ce qu'on pourrait dire
En un mot pour conclure.
En un mot pour conclure, absolument.
Disons, une position, disons que du fait de la position qu'on a dans le monde, on a un regard différent, forcément. Et donc, le fait d'avoir une position marginalisée, peut-être il y a une certaine distance. Pas objectivité ni neutralité, non, mais un regard différent, ouais. Une perspective différente, forcément, nécessairement. Moi, je pense que le fait que le corps de la femme n'est pas le même qu'un corps masculin et que donc le rapport au monde n'est pas le même, et donc forcément, tout discours et tout regard différent apporte quelque chose en soi, philosophe ou pas, c'est vrai en général.
Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça?
Je ne sais pas, une déconstruction. Déconstruction des savoirs, pas des savoirs justement, des perspectives essentialistes, binaristes, et voilà, un au-delà du patriarcat, du capitalisme.
On va conseiller à nos auditeurs de lire le livre et peut-être ils vont trouver la réponse. Un peu de musique pour terminer, c'est vous qui nous proposez une...
Oui, c'est un chant mexicain qui est devenu le chant des féministes espagnoles.
Super. Donc je vous remercie, mesdames, d'avoir accepté mon invitation. Je vais remercier...
Merci à vous.
Merci
Bruno
à vous.
Et Armand, ils ont tout coupé la musique, voilà, tout va bien. Et puis, merci aux auditeurs et à bientôt.
Merci.
Merci beaucoup.
El estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si
vous écoutez Aligre FM 93.1.